Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Charlie, bonjour.
Salut.
Et Nicolas.
Salut.
Bonjour à vous deux, vous êtes ici pour nous parler de le Cirque La Compagnie, un nom que vous nous expliquerez, c'est un peu le monde à l'envers. Donc un cirque franco-suisse qui sera visible à la gare coulisses les 11, 12 et 13 octobre et ce dans le cadre Champ Libre organisé par ce lieu d'accueil et vous fêterez d'ailleurs vos 10 ans et demi et pour cela il y aura 3 journées consécutives avec des propositions de spectacles que vous avez créés ces 10 dernières années donc et l'apport aussi d'autres artistes dont vous nous détaillerez leur présence et avant tout alors que Cirque La Compagnie, pourquoi ce monde à l'envers?
Parce que pour nous c'était super important d'être un cirque avant d'être une compagnie. Et en fait, on a cherché plusieurs fois à changer. On disait toujours la compagnie, elle achète ça, elle achète ci, dont une machine à pop-corn. C'est un peu ça qui a lancé l'histoire de la compagnie. Et le jour où on a commencé à se dire, OK, mais en fait, tous ces trucs qu'on a achetés, on en fait quoi? On la monte, cette compagnie? On le monte, ce cirque? Ah, mais il faut trouver un nom, et impossible, quoi. Après plusieurs sondages, on a fini par garder ce nom générique, Cirque La Compagnie.
Donc, qui existe depuis 2014, et vous êtes tous issus de l'école de cirque de Montréal, qui a marqué beaucoup d'artistes ces 2 dernières décennies dans le milieu du spectacle et du cirque en particulier. Pour vous, qu'est-ce qui prévaut à cette école de Montréal?
Qu'est-ce qui prévaut c'est une très bonne école technique, en fait. D'une part, elle est quand même renommée pour ça. Il y a la chance là-bas d'avoir quasiment un professeur par élève. Donc ça, c'est du luxe dans un sens, parce que le professeur est dédié à l'élève, et ça, c'est très bénéfique. Et voilà, nous, on est arrivés là-bas pour se perfectionner dans nos disciplines respectives. Et en fait, on s'est rencontrés sur les bancs de cette école, et voilà.
Le Cirque de Montréal, là, vous avez pu exercer et perfectionner vos disciplines, notamment l'acrobatie.
Mmh. Pour ma part, en tout cas, moi, je suis acrobate au sol, chaise acrobatique. Je suis rentré en main à main. J'ai fait des portées de la banquine. Je me suis dirigé vers les anneaux chinois, le trempe au mur, le fil mou, pour finir en duo avec Baptiste en planche coréenne. Moi, ça m'a permis vraiment d'explorer tout un tas de disciplines. Mais aujourd'hui, ce qu'on partage sur scène, c'est vraiment la planche coréenne et l'acrobatie au sol.
Mmh. Et les portées un peu, de plus en plus.
Et toi, l'échelle libre aussi, en plus.
Oui, moi, l'échelle libre, oui.
C'est une passion qui vous a pris très tôt, vous deux, pour cet art du cirque?
Oui, quand même. Enfin, pour ma part, j'ai commencé en loisir. Je pense que j'avais à peu près 5 ans, quelque chose comme ça. J'avais commencé avec la gym, mais mon club de gym avait fermé. Et du coup, c'est le seul truc que mes parents ont trouvé après. Et après, je savais pas trop si ça avait un futur là-dedans, ou si j'avais un futur là-dedans. Et quand il a fallu rentrer dans les écoles, en lycée, je me suis rendu compte, après quelques recherches, qu'il y avait un lycée en France qui faisait un bac littéraire option art du cirque. Donc l'option cirque valait dans le bac. Et puis j'ai passé les auditions 2 fois. Et j'ai été pris la 2e fois, et là je me suis dit, en fait ça peut être sérieux. Et du coup j'ai fait mes 3 années là-bas, c'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés avec Charlie, à Châtellerault, dans ce lycée-là. Et puis, une fois le lycée terminé, le bac en poche, j'ai fait qu'est-ce que je fais? Et j'ai essayé les auditions de Montréal, j'ai été pris, et là j'ai fait, ok, ça va être ça ma vie. Donc ça a été assez tard, mine de rien, même 18 ans, où je me suis dit, ok, ça va être ma passion et ça va être ma vie, quoi.
Et pareil pour moi, non, pas du tout. Moi, à 12 ans, j'avais décidé de nulle part de faire du cirque et j'étais convaincu. J'ai vu, ma mère a vu qu'il y avait un truc qui pouvait faire du cirque et une école professionnelle style bac. Du coup, elle m'a un peu poussé à me diriger là-dedans. J'ai pas été pris. J'étais deuxième sur la liste d'attente et chance, il y a eu deux désistements. Je suis parti là-dedans et j'étais sûr que je voulais un chapiteau, monter une compagnie, monter mon cirque. J'ai suivi le bac pas en poche à Montréal. C'était une des seules écoles qui prenait sans le bac et j'ai été très chanceux. Je suis parti à Montréal et là, on a commencé à créer cette compagnie, ce cirque. Il y en a d'autres dans la troupe qui étaient boulangers et qui se retrouvaient à travailler. Et ils faisaient du coup la nuit, le matin, le pain. Et la journée, ils partaient faire du cirque, passionnés. Et là, il est parti après à Montréal. Et d'autres qui sont nés dedans quasiment des 3 ans, ils ont commencé le cirque. Quoi.
Vous parliez donc de cette formation d'option cirque dans le lycée. Qu'est-ce qui vous trouviez intéressant à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait donc la pratique, exercice de toutes sortes de disciplines d'ailleurs? C'est aussi une chose qu'on retrouve à l'école de Montréal, c'est une certaine polyvalence également.
Oui, carrément. Châtellerault, c'est le côté attrayant, en plus d'y aller aussi jeune, c'est-à-dire bon, ok, on quitte le domicile, la maison familiale, et puis on part, parce que pour le coup, on est en internat, ça venait un peu des quatre coins de la France. Donc il y avait ce côté un peu vraiment ultra immersif dans cette école de cirque, et on est, direct d'entrée de jeu, on est très bien accompagné. L'équipe pédagogique était relativement formidable, qui elle venait de plein d'horizons différents, du Cirque du Soleil, de la gym, des portées acrobatiques. C'était un gros panel. Et puis ouais, on a eu la première année, on a l'occasion de toucher à plein de disciplines différentes, justement pour un peu nous donner le goût de dire d'inciter, après de dire vous devez choisir maintenant entre tout ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui vous a donné le plus envie pour continuer quoi. Et en fait, c'est un peu la même chose aussi à Montréal. Finalement, on est arrivé là-bas, les locaux sont tellement incroyables, les professeurs sont tellement incroyables aussi, que finalement, il y a tellement une possibilité de faire du cirque au sens large, de tout faire, de toucher à tout. Et je pense que ça, c'est aussi un truc qu'on aime faire, quoi. Finalement, on a notre discipline majeure, mais on aime aussi un peu toucher à tout.
Exact, on est quand même amené à être spécialisé, à pousser et développer une seule discipline.
Il y a l'aspect interprétation aussi d'un numéro, mais il y a aussi l'aspect création. Ça, vous vous êtes attelé à ces deux aspects.
Comme tu disais avant, moi, pourquoi le cirque? C'est parce que c'est pluridisciplinaire. Ça m'a amené vers la danse, le théâtre, le clown, vers la musique, vers la construction. Il y a l'aspect scénographie aussi. Ça m'a amené sur tout un tas de monde. Et aujourd'hui, il y a même le chauffeur poids lourd. Il y a le montage et le démontage. Il y a vraiment, on s'ennuie pas.
C'est une entreprise.
C'est une entreprise. Ouais. C'est une vie.
Ouais,
complètement.
Dès très tôt, vous vous êtes retrouvé à 5, donc les créateurs de cette troupe, le cirque La Compagnie, et ça suite à cette rencontre à cette école de Montréal.
Ils ont. À la base, ils étaient 4 à créer La Compagnie. Moi, je suis arrivé après. Quand ils m'ont contacté justement pour le projet Chapiteau, où moi du coup sorti de l'école, j'avais fait un peu mon chemin tout seul et puis je m'étais rendu compte que le Chapiteau c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc je me suis un peu formé non officiellement avec des cirques notamment en Suisse à faire du montage, à faire du montage Chapiteau et à être baltringue. Ça c'est un mot qu'on ne connaît que trop peu, les baltringues, les monteurs Chapiteau, les monteurs de cirque. Et aujourd'hui c'est ça qui nous lie quoi. C'est ça l'ADN du cirque.
Et donc, votre première création est le numéro Planchema. Ça, c'est un numéro qui a été médaillé au Festival international du cirque de demain. C'est celui de Paris, c'est ça?
Complètement, oui. Ouais. On a commencé par créer le spectacle et on ne savait pas trop comment ni se diffuser, ni se produire, ni construire. Et au fil des résidences, on s'est dit, mais il faut qu'il en sorte quelque chose. Quoi. On ne va pas tourner cet été, on n'a rien encore. Et on nous a contactés pour jouer le numéro sur un festival en Suisse qui s'appelle Young Stage, où on a gagné une médaille de bronze ou un truc comme ça, et des prix du public, prix du Cirque du Soleil, et plein de choses. Et de ça, on s'est dit, mais bien, on va, pourquoi pas essayer le cirque de demain? On a essayé des émissions télé, on a essayé tout un tas de trucs rigolos. Et on a extrait du coup le numéro du spectacle, et derrière ça, on est retourné faire cette création du spectacle qui est La Vie Bidon Fassa, qui est 8 bidons avec des tours qui sont lestés, qui servent à monter un machinois au milieu et faire une espèce d'éloge de la famille dans toutes ses facettes, quoi.
Voilà, donc nous arrivons à cette avis bidon face A que vous jouez encore. Hein.
Qu'on joue encore et qu'on jouera là pour les 10 ans et demi le 11, 12, 13 octobre.
Comment se constitue un spectacle pour vous? Est-ce qu'il y a vos présences scéniques et acrobatiques, mais tout cela aussi nécessite parfois un fil, une trame qui puisse donner un peu de consistance à ces représentations qui se suivent, j'imagine. Donc il y a un travail de mise en scène également. Et pour cela, c'est grâce aussi à cet apport de l'École de Montréal qui vous a permis de constituer un savoir-faire, en quelque sorte.
Mmh. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Les créations de spectacles, enfin, elles sont... il y a plein de facettes ou plein de façons de les prendre. Mais ça, de manière générale, nous, on a quand même une tendance à passer beaucoup de moments à délirer sur des images, des choses à mettre en scène, juste des couleurs, tu vois, des trucs à la base très, sans réflexion, juste très vif, très brut. Et après, dans un second temps, on fait genre, mais attends, en fait, ça, c'est un mouvement interprété peut avoir un sens, peut raconter quelque chose. Et là, du coup, c'est la deuxième facette. Enfin, ouais, c'est ça, tu combines. Où tu conjugues en fait en fonction de ce que tu crées, quoi. Donc ça c'est une des possibilités. Après, pour le deuxième spectacle, Pandax, là on a fait un autre chemin, on est parti d'une histoire, et là on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on l'explique avec les corps, comment est-ce qu'on en parle avec les corps. Et du coup, ouais, Pandax, c'est parti d'un deuil, enfin non, c'est parti d'une voiture à la base. On était sûr qu'on voulait avoir une voiture sur scène, et on voulait un corbillard. Et de ce corbillard, bah évidemment, ça raconte quelque chose, une voiture. Un corbillard comme ça sur scène, ça parle de la mort, c'est sûr. Ok, comment est-ce qu'on trouve une histoire autour de la mort? Et puis en fait, on a écrit cette histoire et après, on s'est retrouvé au plateau et on a travaillé physiquement. Ouais.
Et pour aussi détourner la question, mais je pense que ça en fait partie, la compagnie, elle a toujours, en tout cas, ce qu'elle porte, c'est vraiment un cirque populaire, un cirque accessible, un cirque avec plein d'humour, ouais, de dérision, quoi, qui est dans l'acrobatie, qui est dans le spectaculaire, et qui aime s'emparer de propos un peu forts comme la mort ou le deuil, parce qu'on ne sait pas vraiment si on parle plutôt du deuil que de la mort, et l'amener avec ses corps, avec tout cet humour, quoi. On aime dévoiler ces propos-là. Là.
D'ailleurs, c'est un peu, en quelque sorte, aussi votre motivation, c'est la présence des chapiteaux au cœur des places publiques, et puis aussi de peut-être d'avoir une démarche aussi par rapport au contexte social et politique actuel. Est-ce que vous vous inspirez justement de l'actualité de ce que et qui vous inspire dans vos spectacles?
Belle question.
Carrément.
Oui, c'est sûr que là aujourd'hui on ne peut pas. On ne peut pas créer ou on ne peut pas tourner sans ouvrir les yeux sur ce qui se passe socialement et politiquement en France. Donc c'est, oui, évidemment, nous, on re-réfléchit, on recrée une façon de tourner, parce qu'effectivement, le chapiteau, c'est quand même... c'est une économie.
Et c'est déjà aussi un acte politique. Mmh. Du coup, c'est obligé qu'on s'impose là-dedans, qu'on se positionne. Mmh.
Alors c'est un acte politique pour éviter d'être sclérosé, hein, en quelque sorte.
Mais pas que, c'est aussi une communion, c'est aussi monter à plusieurs personnes une tente, un truc en milieu d'une ville. C'est choisir de faire de l'émerveillement et de pas faire quelque chose de productif, de matériel. C'est complètement immatériel. C'est tout ça le chapiteau pour nous. C'est vraiment c'est une force de collectif qui vient s'assembler pour faire rêver, quoi. Enfin.
C'est un peu jour de fête aussi.
C'est carrément jour de fête. C'est oui. D'où nos musiciennes qu'on adore là, qui parlent de ça avec brio, quoi.
Mmh. Et le côté éphémère aussi de la chose. On aime beaucoup ça, parce que même que ça soit avec le chapiteau, avec la rue, notre mode de tournée est beaucoup comme ça. On fait beaucoup de routes. C'est d'abord une entreprise de transport, mais on roule beaucoup. Mais on arrive dans une place, on monte notre matériel, on va voir les gens ou les gens viennent à nous. On parle, on raconte quelque chose, on en discute après. Et puis, c'est des rencontres qui sont très, très brèves, mais très puissantes, très fortes. Et puis après, au revoir. On s'est inspirés les uns les autres, et puis on va continuer notre route chacun de notre côté. Et ça, il y a un côté hyper beau là-dedans. Enfin, on adore faire ça, parce que finalement, on est tous différents. On vit tous des choses différentes dans la société. Mais en fait, l'espace d'un instant, on se retrouve tous ensemble et on se parle et on s'écoute. Et c'est hyper important parce que je pense qu'aujourd'hui, on prend pas assez le temps de faire ça, de se poser et d'échanger. Même si on n'est pas d'accord, juste de prendre le temps de parler, quoi.
Pour cela, vous serez présent donc à la gare à coulisses, hein, les 11, 12 et 13 octobre, à partir de vendredi. Là, vous présenterez Pandax sur deux dates, hein, je crois.
Oui.
Et aussi, vous présenterez donc la Dibidon.
Ouais.
Face à. Comment se déroule justement cet accueil du public pour ces trois journées ?
Eh bien, ils sont les bienvenus. Tout le monde est les bienvenus. Comment se déroule ? Bah, y a une billetterie en ligne sur le site de la gare à coulisses. Donc, il y a des forfaits pour aller voir plusieurs spectacles, pour aller voir un spectacle. Il va y avoir des concerts. Il y aura des food trucks. Enfin, il y aura toutes sortes de restaurations. Et également un espace exposition qui retrace un peu en images figées et animées, puisqu'il y aura aussi des documentaires, l'histoire de la compagnie, de ces 10 ans et demi de compagnie.
Et plus particulièrement de la création de Pandax, et de l'arrivée de ce chapiteau-là.
Qui a été évidemment un grand événement pour la compagnie. Et voilà, ce sera un lieu convivial. On va faire ça convivial, c'est prévu. Et voilà, de bons moments en perspective.
Il y a ce spectacle Pandax qui a été co-mis en scène avec Nicolas Garde. On peut parler de cette...
Bah ouais.
Bien sûr.
C'est une metteuse en scène qu'on a rencontrée à Montréal, au Canada. Elle était pas... En fait, à Montréal, il y a ce qu'on appelle, nous, des conseillers artistiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes extérieures qui sont là pour te diriger sur ton...
Le jeu.
Ouais, le jeu, ta dynamique artistique, ce que tu as envie de raconter, toi, sur scène, et d'essayer d'explorer ça et le mettre en scène avec toi. Ils t'apprennent petit à petit, pas à être metteur en scène, loin de là, mais à te mettre en scène, on va dire. Et Nicolas Garde, on l'a rencontré dans ce contexte-là, elle travaillait pas avec nous, mais on a pu travailler quand même avec elle sur des spectacles de fin d'année ou des choses comme ça. Et c'est une personne qui nous a vachement plu dans son chemin, dans son parcours de théâtre, sur scène et de la manière dont elle travaillait. On voulait une femme à cette place-là parce que c'est 5 frères qui parlent de leur histoire et ça nous semblait judicieux d'avoir un autre vécu. Elle a 4 frères et du coup c'était très chouette d'avoir ce regard-là aussi, quoi.
Est-ce qu'il y a du dialogue justement dans ce spectacle entre vous ?
Au début,
ouais, il y a rien à vraiment comprendre ou entendre. C'est beaucoup des sons comme ça qui sortent, mais non, c'est principalement les corps qui parlent.
On voulait ça muet, puis je pense qu'on n'a pas réussi. On aime beaucoup trop communiquer sur scène, et l'aspect muet, c'était pas dans le sens de Chaplin, c'était plutôt dans le sens de pousser le corps à s'exprimer, quoi.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Autour de vous, il y a des techniciens, une équipe, et ce qui fait que vous vous retrouvez à une vingtaine en tournée, donc c'est une machine lourde à gérer.
C'est une bonne machine à gérer. Je dirais qu'on a, on dit entre nous qu'on a un petit gros chap. Il est simple, enfin, il peut être simple à monter à une dizaine de personnes. Après, en exploitation, c'est assez léger puisque de toute façon. Il y a trois techniciens fixes avec nous en tout temps. Et puis nous, artistes, on est, comme disait Charlie avant, on est très touche-à-tout, on est aussi technicien en fait. Donc on arrive à gérer les exploitations. Mais...
Et puis il y a quand même des spécialistes, quoi. Je pense à Clément qui est spécialiste lumière, électricité sur vraiment tout le campement et sur le chapiteau. Il y a Pénélope qui est vraiment dans le son et la diffusion du son. Il y a des régisseurs généraux qui vont vraiment gérer l'implantation du chapiteau. Le montage, là, c'est 2 jours, quelque chose comme ça. On met 2 jours et après ça, on fait une générale et on embarque le public derrière. Et 1 jour de démontage.
Autour de cet événement, il y aura donc ces concerts, ces spectacles. Vous parlez de documentaires également. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à voir à ce moment-là ?
Eh bien, c'est un documentaire sur la création de Pandax et sur l'arrivée du chapiteau. Et ça a été filmé donc par le père de Charlie, qui est dans le métier, qui a toujours fait ça. Et on a eu la chance de l'avoir avec nous sur quasiment toutes les exploitations, sur quasiment toute l'année où on a, les 6 mois, où on a créé et reçu ce chapiteau.
Et c'était un moment quand même particulier, c'était pendant le Covid, c'était assez dur de se déplacer. Et du coup, on a un peu fait du forcing, quoi, pour filmer ces moments-là, quoi.
Il y avait cette contrainte à l'époque, je me souviens, de produire des vidéos pour promouvoir ces spectacles. Comment vous perceviez cet aspect-là? Moi, j'entendais que c'était plutôt décrié, hein, dans le milieu, parce qu'on ne peut pas formaliser en un court format cet aspect d'un spectacle vivant.
Ouais, c'est clair.
On ne peut pas dire que on n'a pas défendu, parce qu'on a filmé le spectacle à la suite de ça sur Arte. Sur Culture Box, mais ça remplacera jamais la scène, quoi. Ce qui était chouette, c'est que ça a pu faire vivre des choses pendant le confinement où des gens étaient un peu coincés chez eux, et ça, c'était le plus important. Mais non, ça remplacera pas la scène, impossible.
Mais pour nous, autre que ça, enfin oui, c'était aussi très important d'avoir une trace en fait de tout ce qui s'est passé là, de cette arrivée du chapiteau, parce que comme dit Charlie, c'était un peu c'était le rêve ultime de la compagnie, d'avoir son propre chapiteau et de l'accueillir et de créer dessous, quoi. Donc c'était assez émouvant dans un sens, mais je pense qu'en fait on a entre guillemets tellement été noyé entre guillemets par la charge de travail qu'on avait entre réceptionner le chapiteau, créer notre scène, apprendre à amadouer cet outil-là, et en plus de ça faire la création du spectacle, qu'on se rendait pas forcément toujours compte de ce qu'on vivait. Et une fois que le documentaire est sorti, enfin en tout cas je parle pour moi, ça m'a fait du bien. Je me dis ok, oui, c'était beau, c'est une belle histoire qui s'écrit.
L'acquisition d'un chapiteau se révèle difficile, ou vous avez pu être soutenu?
On a été soutenu, on était beaucoup soutenu. Ça se révèle quand même difficile. La compagnie, pendant ses 10 années de création, a toujours participé financièrement dans n'importe quelle forme qu'elle faisait. En fait, on mettait des sous de côté, quoi, pour pouvoir acheter notre chapiteau, qu'on a acheté neuf, avec des emprunts, avec tout ça. Dans ce sens-là, c'est une entreprise. Mais on a été aussi soutenu par pas mal de partenaires et de la région. On vient juste de déménager en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. Avant ça, on était dans le PACA, où Piste d'Azur, ou plein d'écoles, ou plein de pôles nous ont suivis. Je ne sais plus la question.
C'était par rapport au soutien de cette acquisition de chapiteaux. Et cela vous permet justement d'avoir votre propre univers. Et tend-il à se développer? Est-ce qu'il y a en quelque sorte une synergie et que des choses se déploient autour?
Oui. On a parlé là, sur l'autre moment où on a fait l'interview, on parlait un peu de notre volonté, nous... de développer un peu nos implantations territoriales, en fait, quand on monte le chapiteau, de pas venir juste pour une semaine, d'essayer de rester un peu plus longtemps et d'aller rencontrer un peu plus les agents locaux, d'éventuellement de mettre à disposition le chapiteau pour soit d'autres spectacles, soit d'autres événements, de nous se déplacer dans les écoles pour faire de la sensibilisation avec les enfants, d'utiliser aussi du coup ce dit documentaire qu'on va présenter aux 10 ans, de faire un peu de la sensibilisation et de dire que ce qu'on fait, j'allais dire c'est bien, évidemment que c'est bien, j'ai personne à convaincre, mais de raconter qu'est-ce que c'est que de faire du cirque aujourd'hui, comment est-ce que nous on le fait en tout cas. Et oui, du coup il y a vraiment cette envie là je pense que matériellement parlant on n'est pas voué à grandir, parce que c'est déjà
pas mal, une vingtaine
ouais. mais à évoluer vachement, parce qu'on habite sur un lieu qui s'appelle le 734, qui est à Cray, où il y a plusieurs compagnies de cirque qui sont présentes, dont les Josianes, dont Si Seulement, avec qui on est très proche, avec qui on est amené à faire des créations ensemble. On est amené à se développer.
Il y a en quelque sorte une constitution de réseau de circassiens, de compagnies qui se soutiennent l'une à l'autre.
Il y a de plus en plus d'artistes circassiens, entre autres, hein, qui posent leur valise dans la Drôme. Et effectivement, là, ça commence à faire beaucoup de gens.
Comment se fait-il ?
Il fait bon en Drôme. C'est beau, la Drôme. Il y a plein de... Ça bouge. Enfin, la vie associative drômoise est quand même assez extraordinaire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup qui est fait. Et nous, pas plus tard que ce matin, on a commencé à parler aussi de venir poser notre chapiteau ici, à Die, sur la place du cirque. Enfin, il y a plein de moyens de travailler avec d'autres personnes. de créer d'autres choses éphémères, de s'implanter brièvement à droite à gauche et de dire qu'on est là et de faire des choses avec plein d'autres personnes.
Et à la base, on a... pourquoi la Drôme, pour répondre à cette petite question? C'était parce que pour nous, c'était un peu un centre de l'Europe, quoi. C'était facile d'aller en Suisse parce qu'on est une compagnie franco-suisse, mais autant dans le sud qu'en Italie, que c'était parfait. Pour nous, c'était parfait.
Et il y a effectivement cet axe routier, hein, ces axes routiers qui vous emmènent au travers de l'Europe. Et puis, on va parler de ces trois journées, donc avec la Guinda, pour compléter la soirée de Pandax du vendredi 11 octobre à 20h30, qui propose de la musique indie latino Astur. Peut-on expliquer ce que c'est?
Oui, ben... Quoi dire de ça? Si, c'est ça. Bah, en fait, c'est l'entreprise d'une Asturienne. Je dis l'entreprise, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais elle, voilà, c'est elle qui a lancé ce groupe. C'est une Asturienne qui est très motrice. Elle fait beaucoup de choses et elle a réussi à regrouper un petit groupe de cinq personnes avec elle. Je sais pas trop comment le dire.
Nous c'était de l'humain, hein. On a voulu participer, on a voulu l'inviter parce que on a vécu avec elle, parce que ça s'est super bien passé, parce qu'elle avait une énergie qu'on adorait, et c'est d'abord ça pour nous les 10 ans, quoi. C'est d'inviter les gens qui nous ont marqués dans ces 10 dernières années, même si on a été un peu réduit sur le format. J'espère que l'année prochaine on continue à faire ce genre de truc, quoi, d'inviter des gens qui nous ont marqués et dont cette fanfare. Ouais, je pense que c'est un peu fanfare qui partage un peu ce voyage, quoi. C'est un voyage.
Tu fais voler le temps antes que le tiempo vuele. Tu fais voler le temps antes que le tiempo. Je vois passer dans la ville au métro bien trop de gens qui n'ont pas le temps. Du temps pour attendre, pour monter, pour descendre, ni le temps de sourire à ceux qui le regardent. Fais voler le temps.
C'est aussi un moment d'échange avec d'autres artistes.
Mmh. Oui, tout à fait. Tu veux dire ?
Oui. Et est-ce que ça permet par contre, parfois peut-être, d'éveiller une envie de création future avec ces rencontres ? Est-ce que aussi cette vie de circassien qui déambule à travers les villages ou les villes inspire aussi vos spectacles à venir ? Est-ce que il y a des choses qui sont en vous que vous avez envie de développer ?
Bien sûr, oui. Ben là, oui, pour le coup... on a un bel exemple, en fait. On a rencontré, on a croisé, entre guillemets, on n'a pas croisé, on a fait partie de la création de cette compagnie, mais les Josiane, qui sont aussi, elles, implantées dans la Drôme, mais la compagnie seulement, comme parlait Charlie, et c'est des gens avec qui on vit, et on a croisé beaucoup leur route d'artistes, et évidemment qu'on a envie de créer avec eux, parce que c'est des gens avec qui on s'entend bien, et qu'on sent qu'il y a j'ai envie de parler de feeling artistique, en fait, et là, du coup, on a une opportunité qui nous a été offert pour l'année prochaine, en 2025, au Festival d'Alba la Romaine, où on a eu une carte blanche qui nous a été offerte. C'est une création en coproduction avec, du coup, la compagnie des Josiane, et on a invité aussi la compagnie Seulement. Donc oui, évidemment que sur la route, on croise des gens, et on fait « Ah, ok, toi, un jour, peut-être qu'on travaillera ensemble ». Et en fait, c'est ce qui va arriver aussi après les 10 ans et demi. Là, on va travailler avec deux autres personnes, deux autres artistes qui vont intégrer le spectacle.
Samedi 12 octobre, deuxième journée, beaucoup plus chargée, qui commencera à partir de 16h, avec à 17h, donc Gaston Lamoulagueur.
Lamoulagueur, oui, tout à fait.
C'est quoi, Lamoulagueur?
On va attendre qu'il nous le raconte. Non, il me semble que c'est un réparateur de moulins. Il est en train de créer son nouveau spectacle, qui est un solo, qui... Et c'est ça, c'est une petite forme où il a eu envie de faire de la bascule tout seul, qui est normalement un agrès où c'est impossible de faire tout seul. Du coup, dans sa construction de moulin, dans sa réparation de moulin, il se met en scène sur cette bascule. Et l'idée, c'est de qu'il nous raconte une histoire, quoi. Je pense que c'est son souhait. C'est très nouveau.
Ouais, là, on parle de... Là, c'est décrit comme un spectacle, mais c'est la première fois que ça va être confronté à un public. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon une sortie de résidence, plus ou moins. Et voilà, je pense que c'est bien pour lui de confronter son spectacle pour qu'après il ait des retours et qu'il continue de créer, quoi.
Comme chaque jour, il y a cette pratique, hein, ces exercices pour entretenir le corps, les numéros également, les améliorer parfois aussi. Et pour cela... c'est une vie, hein, on peut le dire. Est-ce qu'il y a un emploi du temps, de la semaine ou de la journée pour déterminer ce qu'il y a à faire?
C'est très flou, c'est extrêmement chargé. C'est un emploi du temps qui va jusqu'en 2027, là aujourd'hui, avec des implantations chapiteaux, des implantations pour le spectacle de rue, des entraînements, des parties d'entretien technique, de stockage, de location bientôt, de recréation et de création. C'est une entreprise où on doit à la fois gérer une équipe, nous s'entraîner et faire que tout roule, quoi.
Là, en ce moment, on fait aussi beaucoup d'administratif, on va le dire quand même, parce que du coup, on cofondateur, co-directeur, ça implique de s'investir autant sur scène que derrière des ordinateurs ou à envoyer des mails et tout ça. On dit qu'en tant qu'artiste de cirque, le temps passé sur scène représente à peu près 20% du travail quotidien d'un artiste de cirque. Donc oui, c'est vrai, on a un emploi du temps, pas de ministre, mais pas loin, quoi. Mais c'est bien, on aime ça, c'est un métier passion, donc c'est chouette.
Il y a du bonheur, en tout cas.
Ouais.
La compagnie sur mesure sera le deuxième rendez-vous ce samedi à 18h avec Barrière. Et donc c'est la compagnie sur mesure... C'est de partenaires ou c'est issu aussi de votre compagnie?
Oui, tout à fait. Tu veux y aller, Charles?
C'est les musiciennes du spectacle Pandax que j'ai rencontré il y a 7 ans quasiment maintenant. J'ai remplacé dans leur compagnie, chez Sur Mesure. Et en fait, on s'est liés d'amitié. Et quand on a créé le spectacle Pandax, Nico Lagarde, la metteuse en scène, m'ont dit plusieurs fois, mais tu devrais appeler quand même tes amis, Belle Cirque et tout, on aime bien ce qu'ils font et tout. Et moi, ils sont en Belgique, ils ont des familles, elles seront jamais disponibles, quoi, un peu défaitiste. J'ai fini quasiment un mois avant la première, hein, on n'avait pas de musicienne, par appeler Serena, qui a répondu « D'accord, on arrive la semaine prochaine ». Et c'est parti, quoi. On s'est lancé ensemble dans cette création, elles ont été incroyables. Elles nous ont produit de la musique très rapidement pour qu'on puisse travailler. Et aujourd'hui, c'est nous qui les invitons pour qu'elles nous présentent leur spectacle Barrière, qu'elles ont créé aussi pendant le Covid. Comme Nico l'a décrit, c'est une grande barrière qui était là à la base pour laisser passer les gens dans les files d'attente. Et on a eu envie de l'embriquer dans cette programmation, peut-être à l'entrée, peut-être quand les gens prendront leurs billets, ils vont découvrir ce spectacle-là.
20h30, ça sera La Vie Bidon face A, donc en présentation. C'est du cirque de haut vol. C'est de l'acrobatie, mais quels sont les instruments qui sont utilisés dans ce spectacle, à part vos corps?
Du coup, il y a inévitablement la bascule coréenne, qui est la discipline phare. Il y a du machinois, il y a de l'échelle libre, des portées, de l'acrobatie sur bidon. Je n'en dirai pas plus, les gens viendront voir. Et du chant, des monologues,
du lancer de couteau.
Du lancer de couteau, ouais. Voilà.
Est-ce qu'il y a toujours cette quête, je ne sais pas si c'est une utopie, mais est-ce que l'acrobate rêverait de rester suspendu dans le vide?
Complètement, complètement. Et je pense que la bascule coréenne l'exprime bien, c'est ce moment d'apesanteur. Ouais, je pense que l'homme est un pendule qui oscille entre le désir de la satisfaction et l'ennui de la satisfaction. Ouais,
c'est de lui.
Et du coup, il se retrouve à chuter constamment.
Vous apprenez aussi à tomber. Hein.
Complètement. Mmh. Ça fait partie de la formation et ça fait partie de l'apprentissage, mais plus, et ainsi que la peur. La peur est motrice dans l'apprentissage de l'acrobatie. Elle t'amène à jauger les endroits où tu peux pousser et ceux où, au final, tu as peut-être besoin de plus d'étapes avant de franchir ce salto ou de franchir ce cap.
C'est une peur qui est toujours en vous, dans ces représentations. Et il y a aussi cette conscience de ne pas dépasser la limite de risque. Ça, c'est un travail qui se prépare également.
Qui se gère, en tout cas, parce que du coup, la peur est transformée en adrénaline. L'adrénaline étant une drogue, il faut faire attention.
Oui.
Donc on est toujours un peu...
On pourrait tomber dans une certaine ivresse et inconscience, peut-être.
Ouais, c'est ça. De faire attention à écouter le corps, à écouter... On fait aussi du coup une discipline où on a besoin de se lire entre nous, de se parler, de communiquer, de lire acrobatiquement ce que fait l'autre pour être sûr que ok, on va bien prendre la planche, qu'on va aller suffisamment pour faire l'acrobatie. C'est plein de choses qui sont mêlées et du coup c'est une réflexion très vive. Il faut savoir lire très rapidement, être sûr de soi. Donc c'est quand même une peur qui est à maîtriser. Faut pas se laisser embarquer par elle, quoi.
Et puis c'est une discipline qu'on fait que tu sois malade ou que tu sois fatigué. Bah, tu vas te retrouver, c'est du spectacle, quoi. Tu vas te retrouver sur scène, du coup, c'est du travail de partenaire, quoi. Il faut être hyper précis.
Que le spectacle continue. Mm-hmm. Ensuite, à 21h30, il y aura Brass Band News Orleans, et ça, c'est proposé par la Clique, bien connu. Et pour clore cette soirée, la DJ set by Pauline. Donc, on peut présenter rapidement Pauline.
Ben, Pauline, c'est une amie de la maison, enfin, de pas très loin de la maison, qui, elle, a décidé plutôt consciemment de rester bloquée dans les années 2000. Donc elle mixe avec un répertoire musical des années 2000, fin 90-2000. Donc c'est super nostalgique, ça fait bouger.
C'est cosmopolite.
Ouais, carrément. Ça fait rire parce que tu dis « Ah oh, putain, j'avais oublié ce son ». Tu vois, c'est assez... c'est cool, c'est très dansant, c'est très chouette.
Et pour clore ces trois journées, donc dimanche 13 octobre à 17h, représentation de nouveau de Pandax. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir aussi ce dernier jour? Est-ce que tout au long de ces trois journées, il y a des moments aussi d'approche auprès de vous, du public, pour connaître un peu l'activité ou les à côté du spectacle?
C'est pas officiel, mais oui, de toute façon, on sera là-bas. Hein. Donc, évidemment qu'on on va être ouvert à la discussion. On n'a pas forcément prévu de... Mais c'est une très bonne remarque. On n'a pas forcément prévu de temps d'échange ou en tout cas...
De bord plateau ou de ouais, choses comme ça.
C'est vrai, on aurait pu penser à ça, mais on ne peut pas penser à tout.
Non, mais c'est pas trop tard. Hein.
C'est pas trop tard.
Souvent, les spectacles sont agrémentés d'un after qui permettent justement d'aller à la rencontre des artistes et puis de se... Un moment convivial, en quelque
on
sorte.
On risque d'être à l'after au bar, hein, après, bon...
Oui, à gérer le bar.
Pour connaître les accès possibles, il y a encore des places ?
Oui. Non, c'était une blague que je faisais tout à l'heure. Je disais comme si on était ultra connu. Mais oui, il reste des places.
D'accord. Oui. Et donc, pour cela, il suffit de se rendre sur le site de la Gare à Coulisses. J'indiquerai l'adresse internet sur la page de l'émission et on pourra trouver tous les documents nécessaires. Eh bien, en tout cas, je vous remercie, Charlie et Nicolas, de votre patience et d'être venus sur RDWA pour nous parler donc, des 10 ans et demi de la compagnie. Ouais. Cirque la compagnie.
Exactement, merci de nous avoir écoutés.
Et bonne soirée. Oui. Au revoir.
Lonesome rain.